Vous écoutez RTL.
RTL
jusqu'à 16h.
L'été made in France.
Sophie Massieu, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour à tous et bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Ce vendredi, nous allons prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur. Maximum 4102 mètres exactement. C'est l'altitude de la barre des Écrins, le point culminant du massif éponyme.
Un des plus beaux sommets des Alpes, une montagne majestueuse qui s'élève d'un élan de glace dans le ciel du Haut-Dauphiné. Une montagne équilibrée avec une architecture assez unique, superbe, qui prend une teinte incarnée au lever du soleil, et tout cela donne une carte postale grandiose et totalement fascinante.
Alors, pour gravir ce 4000, comme on dit, il nous fallait évidemment un guide de choix. Bonjour Laurent Guillaume.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, vous êtes le producteur et l'animateur de Chronique d'en haut, le magazine de la montagne sur France 3. Et cet été, par ailleurs, vous avez eu le mauvais goût de nous annoncer c'est le temps magnifique que nous subissons depuis un petit moment. Vous n'êtes pas fier de vous, j'espère?
Oui, puis en plus, on a le même temps puisque je suis à Paris en ce moment.
Forcément.
Et c'est pas terrible quand je regarde par la fenêtre.
Ouais, j'espère que vous avez un peu honte de nous annoncer ça tous les jours.
Ah ben, j'ai pas vraiment eu le choix. En même temps, quand on travaille, vous savez, c'est plutôt agréable qu'il fasse pas trop chaud.
Voilà.
Vous auriez pu nous mentir un peu. Enfin, bon. Ce massif des Écrins, c'est un de vos, sinon peut-être même votre massif préféré dans les Alpes. Pourquoi donc ?
Eh bien parce que d'abord, il n'est pas très loin de mon camp de base qui se trouve en Maurienne, c'est juste derrière le col du Galibier, mais aussi parce que je crois que c'est celui qui incarne le plus la montagne que j'aime, c'est-à-dire la montagne réellement authentique, assez tranquille au niveau du tourisme, et puis avec quelque chose d'himalayen, de vertigineux, de dur, de rocailleux. C'est pas de la montagne à vache, en tout cas... pour la plupart des montagnes que l'on peut trouver là-bas, il y a quand même beaucoup de dénivelé. Non, c'est quelque chose d'assez viril, hein, les Écrins.
Bah. Moi, dis tout de suite que les filles ne peuvent pas monter les... Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne va pas être copains, Laurent, attention.
Avec vous, Laurent, on va se balader dans ce parc national des Écrins, dans ce massif du même nom pour découvrir cette nature à nul autre pareil. Vous nous emmènerez à Dormillouze, qui est un des deux seuls villages habités du cœur du parc national. Nous partirons nous balader dans le Champsaur, du côté de la Bérarde également. Valouise sera une de nos étapes. On va marcher, crapahuter, respirer, découvrir cette nature somptueuse. Et juste pour vous, Sophie, Laurent vous dira où sont les marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'aluminium. Il a promis.
Chouette. Et puis nous jouerons évidemment et vous pourrez gagner une montre RTL pour avoir l'heure et pour être à l'heure, le guide du routard pour avoir les meilleures adresses qui soient et un assistant de conduite Week & Go pour ne pas être pris en défaut sur la route. Et puis vous gagnerez aussi votre place, vous serez le dernier finaliste de la finale qui aura lieu demain samedi, histoire de gagner et de remporter une croisière CroisiEurope de 7 jours sur le canal de Provence, d'Avignon à 7, pas mal.
Les Écrins, le parc national, le massif, la barre, tout ça du même nom, c'est absolument sublime.
RTL,
l'été made in France,
avec le guide du routard.
Laurent Guillaume, cette montagne des Écrins que nous allons donc découvrir avec vous jusqu'à 16h sur RTL, c'est un massif bien particulier, vous en parliez déjà tout à l'heure, en disant que c'était assez abrupt et assez vertigineux.
Himalayen même. C'est un paysage très étonnant. Hein.
Oui. Alors c'est un massif qui est très contrasté. C'est vrai que la partie la plus connue se situe entre, j'allais dire, Briançon et Grenoble. C'est le massif de Loisan, de la Mège, de la Barre des Écrins. Et là, on est vraiment confronté à des paysages de type himalayen, avec des vallées assez étroites, hein, qui ont été creusées par des glaciers resserrés, des pics acérés, et beaucoup de glaciers donc blancs qui descendent en toute saison, étincelants, et ça frappe l'imagination. À l'inverse, si vous allez vers le sud, hein, du côté du lac de Serponçon, les portes sud du côté du Champsaur, là vous allez avoir des jardins alpins, des montagnes qui vont remonter plus doucement, verticalement, comme des vagues qui finissent par se redresser quand on remonte au nord. Mais globalement, quand même, c'est un massif cristallin, hein, avec du caillou.
Et est-ce qu'on trouve quand même quelques pâturages ici ou là, de haute montagne ?
Alors, dans la partie sud, et dans certaines zones, oui. Mais en revanche, dans la partie nord, c'est assez difficile. D'ailleurs, on dit que les gens usent leurs semelles quand ils vont dans les Écrins. Hein. Ce sont des alpinistes qui marchent beaucoup. D'abord parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique, comme dans le massif du Mont-Blanc et l'aiguille du Midi, qui permettent d'accéder rapidement. Et puis parce que pour accéder au sommet, il faut marcher des fois pendant des kilomètres. Alors les pâturages, c'est pareil. C'est plutôt une montagne à moutons par endroit que à vaches, hein, parce que les moutons faufilent un peu plus facilement. Et puis il n'y a pas beaucoup d'herbe, en tout cas dans la partie nord.
Et alors il y a des dénivelés absolument énormes.
Oui, puisqu'on part des vallées type Serre-Ponçon, qui doit être un des points les plus bas, vers 600-700 mètres. Bon, là, on remonte, évidemment, pas d'un coup, hein.
Non,
mais
sûr.
Le point culminant, c'est 4102 mètres, la barre des écrins. Et ce qu'il y a d'amusant, Jean-Seb et Sophie, c'est que jusqu'en 1860, et vous allez deviner pourquoi,
oui.
Eh bien, c'était le point culminant de la France.
Oui. Avant l'annexion de la Savoie.
Et exactement, puisque le Mont Blanc était appartenait aux États de Savoie. Et donc, on a piqué la vedette à la barre des écrins. Et le plus drôle aussi, c'est qu'on ne le savait même pas que c'était le point le plus haut, puisque les géographes se sont penchés sur ce massif assez tardivement, au 19e siècle, et ont commencé à se poser la question, mais quel est le sommet le plus haut? On pouvait penser que c'était la Meije, l'Aile Froide, le Pelvoux, parce que vu d'en bas, quand on n'a pas d'instrument précis, ça se ressemble. Et en fait, c'est la barre des écrins et de loin.
Yes. Et alors, ce massif des écrins, c'est vraiment, on le sent dans ce que vous dites, Laurent, c'est on est à la frontière entre la montagne au nord, la Provence au sud. Ça se bouscule un peu, là.
Alors, la véritable porte, j'allais dire la frontière, c'est autour de Gap. Effectivement, ouais. Quand on regarde le sud depuis Gap, ça sent la lavande déjà un petit peu. Hein. Quand on se retourne à partir du col Bayard et qu'on voit les sommets des écrins, là, on se rend compte qu'on en rentre dans ce qu'on appelle les Grandes Alpes. C'est très impressionnant parce que quand vous remontez du côté de Digne, vous remontez la Durance, vous arrivez à Gap, Serre-Ponçon, et là, vous avez vraiment le sentiment de pénétrer dans ces Grandes Alpes très très hautes, avec ces glaciers, ces rochers, alors qu'avant, vous avez plutôt des montagnes de type préalpin. Moi, c'est ce que j'aime dans les écrins. On dirait un îlot qui ressort de quelque chose et qui fait ensuite la jonction par le nord avec toute la suite de la chaîne des Alpes, c'est-à-dire la Vanoise et puis plus loin le Mont Blanc.
Et un îlot qu'on a voulu préserver en créant un parc national en 1973 qui couvre, je crois, 91 000 hectares.
Oui, dont 10 000 hectares de glaciers. Faut se dépêcher d'ailleurs parce qu'ils sont en train de reculer. Alors, effectivement, ce sont les alpinistes, les associations naturalistes aussi et le Club Alpin Français qui ont décidé qui ont poussé à la création de ce parc, hein, après celui de la Vanoise, qui lui avait été créé pour protéger le bouquetin, qui est tellement débonnaire qu'il suffit de lancer une flèche pour le chasser, hein. Bon, et là, c'était un peu différent. Je crois que les gens ont pris conscience à cette époque que c'était un massif qui pouvait être convoité par le tourisme de masse, même si évidemment.
Même si il n'est pas facile d'accès quand même, hein.
Et voilà, j'allais dire, même si évidemment, c'est bien moins difficile d'accès et d'exploitation pour les remontées mécaniques à cause des pentes.
Ouais.
Mais enfin, quand même, il y a des stations autour. Il n'y en a pas autant qu'en Tarentaise et en Vanoise. Il y a quand même Serre Chevalier, puis Saint-Vincent, Orcières Merlette. Donc, on a voulu préserver cet écrin et je trouve que ce parc porte bien son nom.
C'était une bonne idée, effectivement.
Et
la tête dans les nuages, les pieds solidement accrochés à flanc de montagne. On continue la découverte de ce massif unique des écrins jusqu'à 16h sur RTL.
RTL, l'été made in France.
Laurent Guillaume, le spécialiste de la montagne sur France 3, est notre guide cet après-midi sur RTL et nous randonnons avec lui dans le massif des Écrins. C'est un massif où il y a un climat particulier. Là, je parle à l'homme de la météo de France 3. Il y a un climat et du coup, ça entraîne une végétation, ça entraîne des animaux particuliers.
Alors effectivement, le climat est celui des Alpes du Sud et il ne faut jamais mettre dans le même panier les Alpes du Nord et du Sud. Hein. Ça leur plaît pas aux habitants et à moi non plus parce que ce sont des climats radicalement opposés. On peut même dire que quand il neige beaucoup,
il y a plus de précipitations au nord, c'est ça?
Alors, ça dépend des situations. Cet hiver, par exemple, c'était l'inverse. Mais d'une manière générale, quand il neige d'un côté, il neige pas de l'autre. Ça s'appelle l'effet de faune. Hein. C'est l'un ou l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans une zone avec 300 jours d'ensoleillement par an. En revanche, quand il neige ou quand il pleut, ça fait pas semblant. C'est un petit peu le principe du climat méditerranéen, si vous voulez.
Ouais,
il peut tomber un mètre de neige en peu de temps. Et donc, on a des forêts dites sèches, comme par exemple les mélèzes. Si vous vous baladez autour du parc des Écrins, vous aurez beaucoup de mélézais. Il y a peu de sapins qui sont des arbres qui nécessitent plus d'humidité. Donc, on a quoi? On a plus de prairies aussi. On a une herbe qui est peut-être un petit peu moins grasse qu'en Haute-Savoie, parce qu'il pleut moins, donc propice aux moutons plutôt qu'aux vaches. Et en fait, la vie pastorale s'adapte complètement aux conditions climatiques qui changent évidemment d'un versant à l'autre. Mais si on commence à rentrer dans le microclimat de chaque vallée, ça va être compliqué. Donc il faut retenir qu'il y fait beau quand même très souvent.
Qu'il y fait beau. Et d'ailleurs, du coup, c'est une plante, le panicot, qui est devenu l'emblème du parc...
Ce fameux chardon bleu.
Du parc national.
Oui, alors on n'en voit pas beaucoup.
Non.
En tout cas, moi, c'est vrai que je regarde plutôt les sommets que les plantes. Donc,
moi aussi, je fascine en plantes, à vrai dire.
Laurent, ça induit aussi ce climat particulier, une architecture rurale particulière au Parc des Écrins.
De toute façon, à partir du moment où on habite en montagne, on économise ses efforts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va construire son chalet d'alpage, sa baraque, sa maison, ou tout ce que vous voulez, on va choisir ce qu'il y a à côté. Donc là où il y a des pierres, on a une architecture rurale, faite de pierre, là où il y a des mélèzes, on va voir du côté du Kera par exemple, on n'est plus dans les écrins, mais enfin c'est le même genre de d'architecture, on va utiliser le mélèze pour construire des maisons, des balcons, et puis si vous allez dans le Champsaur, qui est très ensoleillé aussi, très large, on aura carrément des paysages de jardins alpins avec du bocage, on pourrait se croire en Normandie, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'un montagnard économise son énergie. Il va prendre le caillou qui est à côté pour construire sa maison. Là où il y a de la lauze, on fait des toits en lauze. Là où il n'y en a pas, on fait des toits de chaume, aujourd'hui en tôle. Et là-bas, en l'occurrence, il n'y a pas de lauze, donc ce sont des toits autrefois de chaume qui ont été remplacés par de la tôle pour à l'ère moderne, et tout ça est très cohérent. Et ce que j'aime dans un parc national, notamment celui des Écrins et les villages qui les entourent, eh bien c'est la cohérence entre le climat, les paysages, les modes de vie et le caractère des gens.
Et les activités.
Et les activités, rurales
aussi, qui donc sont l'élevage, j'imagine le tourisme, pas mal, peut-être un peu d'artisanat.
Alors, l'artisanat, comme partout, c'est surtout d'ailleurs l'artisanat en montagne, dans ces endroits-là, c'était un moyen de s'occuper pendant l'hiver. Mmh. Si on fait des montres en Suisse, c'est parce qu'il faisait pas beau pendant l'hiver, donc non, mais c'est pas une blague. Alors là, on faisait pas des montres, mais on va faire de la sculpture, des rosaces, les fameuses rosaces qu'on retrouve
dans
un peu.
Dans le Kera aussi.
Voilà, dans le Kera aussi. En l'occurrence, le tourisme est très présent autour du parc, avec les stations de Serre Chevalier, le Briançonnet, Lambrunet avec le lac de Serponçon, le Gapençais. À l'intérieur du parc, il est assez vide ce parc. Il n'y a pas de grosses stations, il n'y a pas de grandes villes immédiatement autour.
Donc il est bien protégé.
Donc quand on fait du tourisme là-bas, on se balade. Et quand on se balade, eh ben, on est moins nombreux que quand on prend le télésiège, forcément, ou le téléphérique. C'est et c'est ce que j'aime là-bas. C'est
donc on a la paix,
tranquille.
Dans un beau désert de montagne. Laurent, vous restez avec nous jusqu'à 16h sur RTL, histoire de nous faire découvrir tout de suite un village incroyable, et surtout bien sûr ses habitants. C'est l'été sur RTL.
Et direction maintenant, Laurent, on va à Dormillouze. Alors ça, c'est un hameau très très particulier, déjà parce qu'il n'y a pas de route pour y aller. On en a commencé une, je crois, à la fin des années 30, un peu
oui,
avant la guerre.
Et puis elle n'est pas allée très loin.
Voilà, elle n'a jamais été finie.
Pourquoi elle n'a jamais fini ? Parce que c'était la guerre, justement ?
Alors, en l'occurrence, je ne sais pas exactement pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'ensuite, à partir du moment où le parc s'est créé, il n'était plus question d'en faire une.
Oui,
donc on continue à y aller à pied.
Et alors, le plus étonnant, c'est qu'il y a des gens qui habitent là-bas.
Oui, alors ce qui m'ennuie un peu, j'en sais, chaque fois que je participe à votre émission, je suis obligé de me griller un plan sympa et donner une bonne adresse à tout le monde. Mais enfin, je vais le faire quand même. Alors, c'est sans doute l'endroit le plus exquis du parc des Écrins, parce que c'est le seul village habité toute l'année à l'intérieur du parc, pour des raisons historiques. Ouais. Et dans ce village, eh bien, il y a deux habitants. Je peux vous parler des deux, je les connais bien.
Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les connaît même par leur prénom.
Ah oui. Ah ben c'est pas compliqué, 100%
c'est
de la
population.
Alors,
c'est qui le maire entre les deux ? Ils ont un maire du village et tout ou...
C'est un hameau qui dépend d'un petit village qui est en dessous. Donc évidemment, dans la commune, il y a plus d'habitants.
Qui
est
donc à une heure de marche, quoi. Dans
voilà.
Le hameau, il a une heure de marche.
Une heure de marche, en tout cas, il y a quoi, 400 mètres de dénivelé, plus 2 km à pied, à plat, à partir du moment où la route s'arrête. Et on arrive donc dans ce petit village.
Ça me donne vraiment envie d'y aller.
Ah ben alors c'est un endroit absolument incroyable. Et donc là-bas, vous allez rencontrer, si vous y allez en hiver... plus, il n'y a pas grand monde, deux habitants. Le premier s'appelle Serge, c'est un ancien sous-marinier, un gars qui a bossé à Toulon dans les sous-marins. Il a retapé un chalet, d'ailleurs, bas de plafond, quand on y va, je sais pas, ça doit être une habitude professionnelle, on se prend
la tête
dans les poutres, effectivement. Et c'est un type qui a décidé de vivre toute l'année avec, comme unique chaîne de télévision, sa fenêtre, les chamois et la neige qui tombe.
D'accord.
Et puis un peu au-dessus, dans le village...
Ah, ils sont même pas au même endroit.
Ah non, mais c'est
un
il y a la banlieue sud, la banlieue nord.
D'accord.
C'est quand même, faut faire attention, on mélange pas les gens. Donc, un peu au-dessus, parce qu'effectivement, c'est un mot qui a trois parties.
Il faut savoir qu'on est tous hilares dans le studio.
Il y a un autre gars qui s'appelle Serge.
Un autre ?
Oui,
ils sont deux. Ça y est,
j'ai fait le tour de la population. Alors Serge, lui, il fait vivre un peu le hameau parce qu'il tient un gîte, s'appelle le gîte de l'école, qui est une ancienne école, comme son nom l'indique. Et c'est un type sympa qui a un chien absolument incroyable, qui ressemble un peu au vôtre, Sophie. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas quelle marque, mais en tout cas, c'est un chien lymphatique qui a l'air de s'ennuyer admirablement bien et qui vous donne juste envie de ne rien faire.
Le mien n'est pas lymphatique, c'est plutôt un excité. Ça lui ferait du bien la montagne, ça le calmerait un peu.
On est, c'est haut. Quand même,
alors
1500
mètres d'altitude et je peux vous dire, Jean-Sep, que j'ai tourné là-bas une émission l'an dernier parce qu'il faisait mauvais. Vous savez, je suis un fanat des chutes de neige, donc on a choisi d'aller s'isoler dans ce village, évidemment quasiment bloqué, pour faire quoi ? à rien pour savoir ce que c'est que de n'avoir rien à faire en hiver dans un village.
La prochaine fois, je viens avec vous. Vous m'emmenez ?
Mais je vous promets que... Non mais Sophie, franchement, c'est une expérience initiatique rarissime. D'abord, le réseau téléphonique ne passe pas, ce qui est déjà bien.
Oui, ce qui est bien.
Donc j'avais emmené de quoi faire du Candy Crush, des choses comme ça, rien. Donc on peut lire, on peut écouter le feu de la cheminée, on peut simplement regarder la neige tomber. Et puis quand il y a une chose à faire dans la journée, c'est aller décrasser la turbine qui donne un peu d'électricité, c'est aller... Alors, il y a Serge qui va rendre visite à Tony, et puis Tony qui va rendre visite à Serge. Il y a quand même un petit peu de boulot, parce que parfois il y a des clients.
Il y a des fois, ils s'invitent à prendre l'apéro.
Mais tous les jours, et ils jouent, non, mais c'est vrai, ils jouent aux petits chevaux, tous les jours, avec une mauvaise foi sidérante.
Oh, c'est génial, j'ai perdu
toutes mes parties. Et alors, il y a rien à faire. Disons qu'il y en a un qui fait rien, c'est Serge, il a la retraite. L'autre qui travaille un peu parce qu'il tient
son gîte.
Mais c'est l'éloge du temps qui passe. C'est vraiment l'art de ne rien faire et d'être heureux face à la nature. Je peux vous dire qu'en tant que citadin, parce que j'habite quand même pas à la montagne toute l'année, ça fait un bien fou. Pas de télévision, pas de radio. Enfin, si la radio, mais en l'occurrence, on l'a pas écouté parce que les ondes, elles passent partout.
C'est ça. C'est ça.
Et pas de téléphone portable.
Alors, nous, malheureusement, le temps passe et on est obligé de courir après en radio. Vous le savez, c'est comme en télé. On va faire quand même une petite pause pour prendre le temps de vous offrir quelques jolis cadeaux sur RTL. Nous allons jouer, mais pas avec la Corée du Nord. Ça, c'est un petit clin d'œil.
Jusqu'à 16h. L'été made in France. Sophie Massieu, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Nous avons dans le paquet cadeau qui est déjà prêt une montre RTL, un guide du routard, celui de votre choix, ainsi qu'un assistant de conduite Weekend Go. Il reste une place pour la finale de demain. La finale pour gagner une croisière Croisi Europe, 7 jours sur le canal de Provence. Mais il faut répondre à cette question.
Quelle est l'altitude de la barre des Écrins, point culminant du massif des Écrins?
L'altitude de la barre des Écrins, c'est au 3210 qu'il faut répondre. Et si vous avez la bonne réponse, vous serez tiré au sort parmi les bonnes réponses. Justement, on se retrouvera dans la finale de demain et vous aurez gagné tous nos jolis cadeaux. Et nous poursuivons notre découverte de ce massif des Écrins et de ce parc national. Avec vous, Laurent Guillaume, on est maintenant à Valouise.
Oui.
Alors, c'est un village ultra typique, il y a de très jolies maisons. On est un petit peu en dehors de la zone cœur du parc des Écrins, comme on dit.
Oui, Valouise, c'est même un ensemble de vallées situées sur le côté Durance, le flanc est du parc des Écrins. Mais c'est une des grandes portes d'accès au parc. Et notamment une petite route qui nous emmène dans un endroit que vous allez adorer et qui s'appelle le Pré de Madame Carle.
Ah, donc, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Ce qui est génial dans la toponymie de cet endroit, c'est qu'il n'y a pas de pré, il n'y a pas de Madame Carle.
D'accord.
Il faut regarder un petit peu les origines de cette appellation qui raconte d'ailleurs l'histoire des variations climatiques. Donc moi j'adore. En fait, il faut remonter 500 ans en arrière à une époque où effectivement le climat était beaucoup plus chaud. Et à cette altitude, à peu près 2000 mètres, donc au bout de cette route, sous le glacier blanc et noir qui descend du Dôme des Écrins, il y avait un pré. Donc quelque chose qui valait de l'argent, il y avait des pâturages, de l'herbe et des troupeaux. Et donc le roi Louis XII, à l'époque, a donné ce bel alpage richissime à un certain Geoffroy Carl, qui était président du Parlement du Dauphiné. Mm-hmm. Et à sa mort, c'est Louise Sereine, une native du pays, qui a administré le bien et qui a donc donné son nom à ce coin de montagne qui n'a pas la moindre touffe d'herbe aujourd'hui, ou presque.
D'accord.
Alors, c'est un endroit sublime quand même, parce que vous êtes au carrefour de deux glaciers qui descendent du Dôme des Écrins. Le glacier blanc, il est blanc. Le glacier noir, il est noir. Alors pourquoi il est blanc? Bon, il y en a un qui est pur et qui ne trimballe pas de roches, de choses comme ça. Et puis l'autre, il a ramassé beaucoup de pierres en raclant les moraines. Donc il y en a vraiment un qui est blanc, vraiment un autre qui est noir. Et à l'époque, il n'y avait pas de glacier dans cette zone, donc des pâturages, d'où le nom Pré de Madame Carle.
En ce moment, le glacier blanc et noir, c'est des randonnées qui sont très très courues par les vacanciers qui passent l'été. Exactement. À la montagne. Mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Le glacier blanc, c'est un endroit absolument génial.
C'est sublissime. Alors ce qu'il y a de superbe là-bas, c'est que vous n'êtes pas obligé, au moins au début de la randonnée, de marcher sur le glacier. Vous savez que c'est toujours très dangereux de marcher sur un glacier.
Il faut être accompagné, encordé. Oui, voilà, il faut être accompagné.
C'est même pas seulement une histoire de crampons, c'est une histoire de corde, parce que vous avez toujours des ponts de neige qui peuvent céder. Mm. Donc il faut avoir un guide, il faut être encordé, comme ça, s'il y en a un qui passe dans un trou, l'autre peut le retenir.
Enfin, ceci dit, Laurence, l'actualité d'hier le rappelle, puisqu'il y a eu un mort qui a fait une chute dans le massif des Écrins, justement.
Voilà, donc il faut. Le risque zéro n'existe
pas, mais c'est vrai qu'il faut toujours un guide.
Il faut pas non plus être parano, il faut simplement faire attention et au climat et prendre un guide. Et donc cette randonnée sur le glacier blanc, elle commence un peu en dehors, sur la moraine. Donc vous pouvez aller jusqu'à un refuge qui vous fera, j'allais dire, cheminer le long du glacier sans avoir besoin de mettre les pieds sur le glacier. Et puis après, et là c'est une expérience absolument magique que vous avez admirablement bien décrit, Jean-Seb, avec des mots extraordinaires, en parlant de ce lever de soleil d'une couleur...
Moi, je pense qu'il voit plus souvent les couchers de soleil que les levées de soleil de vos amis.
Oui, c'est pour ça m'étonne un peu aussi. Ouais, en tout cas, l'ambiance était là.
Parce qu'il a fait de bonnes lectures.
Il a dû voir une belle photo.
Cette réputation que vous me faites. C'est incroyable. Je suis à la radio depuis le début de l'été à 7h40 tous les.
Moi, je sais
ce que ça vous coûte.
Alors, en fait, de couleur incarnat. Voilà, c'est un rose un peu soutenu qui tire sur le rouge.
C'est exactement ça. Quand vous allez bivouaquer avec un guide, donc sur le glacier blanc. Le long de cette vallée qui est assez plate, hein. Le glacier est assez plat à cet endroit-là, vous êtes entouré un petit peu comme dans la vallée blanche à Chamonix, ça rappelle un peu ce genre de paysage, vous êtes entouré par des montagnes assez raides, et au fond, vous avez le dôme et la barre des Écrins majestueusement placés pour fermer cette vallée. Et donc le soleil se lève avec les couleurs et ces mots exquis là dont vous me parliez pour définir un rose un peu rosé.
C'est incroyable, rangé. On y est, on voyage.
Et voilà, alors là, c'est un moment de solitude, mais au sens noble et heureux du terme, extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'en parler avec un des alpinistes locaux qui s'appelle Lionel Daudet, qui est un amoureux de sa région, et qui fait ça parfois pour le plaisir, alors que c'est un type qui a parcouru le monde entier.
J'en doute pas. Vous êtes en forme, et nous aussi, ça tombe bien. Poursuivons notre balade avec Laurent Guillaume sur RTL. C'est l'été Made in France. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
RTL, l'été Made in France.
Donc on l'a dit, Laurent, le parc national des Écrins est à cheval sur les Hautes-Alpes et sur l'Isère.
Et là, nous allons dans la vallée du Vénéon, donc on passe en Isère, où on a là-bas un paysage, donc on l'a vu, totalement différent. Et un des lieux mythiques du parc, enfin de ce massif des Écrins, c'est la Bérarde. Pourquoi c'est mythique, Laurent, cet endroit ?
Parce que déjà, je pense que c'est la route la plus improbable qui existe dans les Alpes françaises. Alors, bon, je ne suis pas flippé de la vie spécialement, mais je peux vous dire que quand vous êtes dans un chasse-neige et que vous déneigez cette route de la Bérarde en avril pour la première fois, et que le gars du chasse-neige vous dit « Bon, fais attention, hein, il peut y avoir des chutes de pierre ou une avalanche, on ne sait pas », et qu'à côté de vous, sur le côté droit, vous avez un ravin de 300-400 mètres de dénivelé, que la route est moins large que le chasse-neige.
Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On serre les fesses et on dit on verra bien comment ça se passe en bas.
En fait, c'est assez extraordinaire la Bérarde, parce qu'aujourd'hui encore, y aller, c'est une aventure en soi, je vous l'ai dit, entre Saint-Christophe en Oisan et puis la Bérarde, la route est très impressionnante, extrêmement minérale, vertigineuse. Mais à l'époque, quand Edward Whymper, qui était un aventurier anglais, alpiniste aussi, a découvert cette vallée du Vénéon, il raconte dans un livre qui en parle, on a l'impression qu'il défrichait l'Amazonie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de tunnel, évidemment. Et j'adore me mettre dans la peau de ces gens, de ces explorateurs des temps modernes, hein, qui exploraient simplement les Alpes du Sud, et qui décrivent un territoire hostile, habité par des gens bizarres, pas forcément très engageants. Enfin, moi, je trouve ça génial, parce que même si les gens sont quand même beaucoup plus sympathiques qu'à l'époque, sans doute, ils sont plus habitués à voir des touristes, aujourd'hui, on est quand même au bout de quelque chose, hein. Et la Bérarde, c'est le bout du bout du monde.
C'est un peu la Mecque pour les fondus d'alpinisme aussi, hein.
Oui, c'est de là que partent les cordées, par exemple, pour la Meije, qui est un autre sommet magnifique, emblématique du parc des Écrins. Beaucoup le préfèrent d'ailleurs aux Écrins, d'abord parce qu'il est au bord de la route du col du Lautaret, donc tout le monde peut le voir, ça aide toujours à aimer un sommet, hein. Il est très familier. 3980 mètres, la Meije, et il a été vaincu, et ça c'est presque extraordinaire, par un gars du pays, qui s'appelait Pierre Gaspard, qu'on a appelé Gaspard de la Meije, et c'était au 19e siècle, une époque où seuls les Anglais arrivaient à faire les premières, hein, puisque eux seuls s'intéressaient à nos montagnes à nous, c'était plutôt gênant pour l'agriculture, voilà.
On n'avait pas le goût de l'alpinisme qu'on a aujourd'hui, quand même.
Et évidemment. Et donc, ce qui est génial, c'est que c'est un gars du pays, même pas seulement un Français, mais un gars du pays, Pierre Gaspard, de Saint-Christophe en Oisans, qui est monté sur la Meije la première fois. Et c'est Edward Whymper qui a gravi pour la première fois la barre des Écrins. C'est un alpiniste extraordinaire qui écrivait très bien et qui raconte son voyage dans la vallée du Vénéon, qui est quand même pas une vallée extraordinairement longue, hein, ça doit faire 10 km, 10-15 km depuis Bordoisan, bah, comme si, je vous dis, il avait traversé l'Amazonie, c'est extraordinaire à lire.
Et bien que ce soit un endroit qui est très minéral, on trouve aussi de ce côté du massif des Écrins une flore totalement exceptionnelle, comme dans tout le massif des Écrins, puisqu'il y a pratiquement 2500 espèces végétales qui se retrouvent là-bas, c'est-à-dire à peu près la moitié de la flore française qu'on trouve. Il y a également une faune passionnante avec des chamois, avec des aigles royaux, avec des papillons ultra rares comme cette Isabelle. Ce qui fait de tout cet endroit un endroit totalement mythique, où la montagne est également mythique.
Oui, et puis ce qui rend aussi ça un peu plus riche et plus extraordinaire à dénicher, c'est que, je vous l'ai dit, c'est pas facile d'accès. C'est pas une montagne facile, l'Oisans. Donc quand vous arrivez en haut de quelque chose, eh ben je crois qu'il y a
vous l'avez mérité.
Voilà, on l'a mérité et on passe peut-être plus de temps à regarder les détails.
On va retourner dans les Hautes-Alpes, autre vallée, autre paysage, c'est le Champsaur qui pointe son nez sur RTL.
RTL, l'été made in France avec le guide du routard.
Et dans cet été Made in France, nous sommes toujours dans le massif des Écrins avec Laurent Guillaume, qui est le spécialiste de la montagne de France 3. Et nous arrivons dans le Champsaur, qui est là une vallée charnière entre Nord et Sud, mais aussi entre France et Italie.
Oui, enfin, je ne sais pas si la charnière se passe vraiment de ce côté-là, j'en sais. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est sur un paysage...
Non, mais dites-lui qu'il a tort un peu, ça...
Mais oui.
Pour l'avant-dernière, en quelle heure
on n'est pas très loin d'Italie, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais la vraie frontière, c'est plutôt entre les Alpes du Nord, hein, même si les Écrins sont bien dans les Alpes du Sud, on est quand même dans un massif élevé qui fait penser plutôt à ce qui suit derrière. Et quand on se retourne dans le Champsaur, on a la vision sur Gap, on a une montagne presque douce. Je vous l'ai dit, ça sent la lavande déjà un petit peu. Mm-hmm. Il y a les caisses de pastis qui arrivent à remonter la Durance et qu'on arrive à retrouver dans les bars, les olives noires aussi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que contrairement à l'Oisans que l'on vient de parcourir avec les mots, eh bien, on est dans un paysage extrêmement humain, extrêmement doux, avec des pentes très 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 douces, des vallées très très larges, et des vagues de montagnes vertes, verdoyantes, un peu plus vertes que dans l'Oisans, il y a moins de cailloux, qui vont se redresser progressivement en allant vers le centre du parc.
Et donc c'est plutôt dans ce coin-là qu'on va faire de l'élevage.
Alors voilà,
il y a du lait, du bon fromage.
Tout à fait, et puis il y a le fameux agneau du Champsaur, qui est juste une merveille, qui est élevé, j'allais dire, à la main, enfin, vraiment humainement, ils connaissent le petit nom. Moi, je suis allé voir un éleveur là-bas qui pouvait me dire presque comment s'appelait l'un de ces 500 moutons. Pour moi, c'est un mouton, c'est frisé, c'est blanc, enfin voilà, c'est sympa. Hein, mais...
non, ils le reconnaissent.
Et donc, c'est une culture très, très, très habitée, humaine, incarnée. On est dans une montagne qui n'a plus rien à voir avec l'Oisans, on regarde les sommets en rêvant. Là, on regarde les villages, on regarde les gens, on regarde les visages de ces gens qui sont marqués par un travail souvent difficile d'élevage, et puis cette fierté que l'on retrouve dans les Alpes du Sud. Moi, j'aime beaucoup le Champsaur, parce qu'il a cette dimension humaine.
Et puis, il y a un village que vous aimez bien en particulier.
Oui, c'est Prapic.
Et pourquoi ?
Parce que c'est le spot mondial de la marmotte. C'est la capitale mondiale de la marmotte.
On y arrive aux marmottes.
Et donc du chocolat.
Alors vous rigolez, Sophie, mais alors je vais vous en raconter une.
Ah ouais, dites-moi.
L'histoire de la marmotte qui met le chocolat, tout le monde connaît cette pub qui a très bien marché parce que ça fait juste 15 ans qu'on la voit plus, mais tout le monde s'en souvient.
C'est ça.
Eh bien, c'est pas une blague. C'est-à-dire que j'étais avec un accompagnateur dans le spot mondial de la marmotte et il m'a dit, Laurent, si tu veux filmer une marmotte, faut se mettre sur ce rocher. Je lui dis, attends, des marmottes, on en filme tout le temps, tu vas pas. Alors on a attendu un petit peu. Et la marmotte, non contente de venir simplement montrer sa frimousse à 10 mètres de la caméra, mais grimper dessus. Elle est venue me piquer ma barre de chocolat que j'étais en train de manger. C'est pas une blague. Alors, je l'ai empêchée. Pourquoi ? Parce que c'est très
bon
mauvais.
Mais
il faut pas leur donner du chocolat. Ça leur donne de l'eczéma. Elles en crèvent. Mais n'empêche qu'elles aiment les sucreries. Allez savoir pourquoi. Il n'y en a pas dans la nature.
Ah, parce que les humains leur en donnent. Allez savoir pourquoi.
Et effectivement, c'est un vrai problème. En tout cas, elles sont pas apprivoisées, les marmottes de Prapic. Mais je n'avais jamais vu ça en pleine nature. Je vous parle pas de la marmotte de l'office du tourisme à côté du refuge pour faire joli sur la photo. Mais en pleine nature, dans le parc des Écrins ou aux portes du parc des Écrins, les marmottes viennent, vous piquent vos friandises dans le sac, vous fermez le sac, c'est pas une blague.
C'est presque problématique d'ailleurs pour les marmottes d'être si affectueuses avec l'humain qui passe.
C'est farouche, en
ça leur donne
exactement. Elles sont pas sauvages. Alors en fait, ce qui s'est passé, pour tout vous dire, c'est que je crois qu'on a lâché la pression, on a lâché un peu prise sur cet endroit précisément de Prapic. Par contre, pour dire ailleurs, là vous n'y n'y touchez pas, parce qu'à un moment, on pouvait pas tout le temps mettre un garde derrière chaque personne. Après, c'est une question de responsabilité. Si vous voulez vraiment faire venir une marmotte, vous pouvez faire simplement le geste de sortir quelque chose de votre sac qui se mange, elle va venir. Après, faut pas lui donner. Bon, c'est un peu cruel, mais voilà. Et puis, de toute façon, c'est moins cruel.
C'est beaucoup moins cruel que de l'attenter à sa vie en lui donnant des saloperies qu'elle peut pas dire.
Exactement. Mais c'est un endroit magnifique. Et puis, pour terminer, ça se situe sous le Mour Froid. J'aime beaucoup cette montagne qui est à 2994 mètres. Elle tutoie les 3000 mètres, comme 150 autres sommets de ce parc des Écrins. Mour Froid qui garde sa neige très longtemps. Et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Vous savez, dans la toponymie, il y a toujours un petit peu de poésie. Et il faut pas chercher loin, souvent.
C'est sûr. RTL vous emmène au sommet du parc des Écrins tout de suite dans l'été Made in France.
RTL, l'été Made in France.
On est ensemble pour encore quelques minutes jusqu'à 16h pour aller s'y attaquer. On y va.
Il va falloir monter très vite quand même.
On se fait un 4000. Voilà, on se fait la barre des Écrins parce qu'il faut quand même y aller. Là, c'est Laurent Guillaume. On est dans l'alpinisme sportif, hein, là quand même. C'est pas à la portée de n'importe qui, la barre des Écrins.
Alors, la barre des Écrins, non, c'est une vraie course. Difficile, qui n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, 4100 mètres, et c'est pas une question d'altitude, c'est une question de terrain, ouais. Puisqu'elle se termine par une arête vertigineuse. Vous le disiez, d'un côté, la barre des Écrins, c'est un peu comme le Mont Blanc en miniature, c'est-à-dire qu'on voit des glaciers sur toute sa face nord, qui ont l'air de descendre de manière un peu débonnaire, mais c'est pas débonnaire du tout, il y a des crevasses, faut faire attention. Et puis de l'autre, le versant sud, enfin, qui regarde plutôt la Provence, eh bien, c'est une arête. Un vertical, et quand on grimpe sur la barre des Écrins, il faut faire le tour de cette arête. En gros, on ne se croise pas. On a un pied d'un côté, un pied de l'autre, et l'arête au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors
bien.
Ça, c'est évidemment une course qu'il faut faire quand on est bon et quand on est équipé, évidemment, encordé avec un vrai guide. Et voilà. En revanche, il y a une petite course qui est plutôt plus facile, qui est un peu moins haute, c'est le dôme des Écrins, parce que juste avant d'arriver à la barre, c'est-à-dire à l'arête des Écrins, vous avez le dôme qui est à 4065 mètres. Alors, je vais pas dire que c'est facile, parce que dès qu'on est sur un glacier en haute montagne...
Non, déjà, il faut de l'accoutumance à l'altitude, voilà. Il faut déjà des petites courses avant la grande.
Oui, il vaut mieux s'entraîner de toute façon, on n'est pas encore vraiment... Enfin, 4000, ça va encore pour le mal des montagnes, enfin, il y a des gens qui sont très sensibles.
Pour le souffle, c'est quand même
pour le souffle, voilà, et puis surtout le terrain, c'est un terrain glaciaire, quoi qu'il en soit, donc dangereux, donc un guide ou de l'expérience, voire les deux. Mais disons que c'est une course qui peut s'adresser à des gens qui n'ont pas encore une longue expérience, à condition qu'ils soient accompagnés, encordés, avec un guide de haute montagne. Et c'est très satisfaisant parce qu'on arrive à avoir les sensations de la haute montagne sans pour autant se mettre en danger sur l'arête ou de la barre des Écrins.
Et c'est vrai que les sensations de haute montagne, c'est indescriptible, enfin, pour le coup.
C'est
moi, j'ai pas les mots, je l'ai vécu, j'ai pas les mots, c'est incroyable.
Moi non plus, j'ai pas les mots pour tout vous dire, parce que j'en fais assez peu, voire très rarement, puisque j'ai le vertige quand je monte sur une chaise. Et j'assume assez bien, ça empêche pas d'aimer la montagne.
Moi, j'échappe à ça.
Mais bon, j'ai juste fait 520 émissions où on parle de ça, donc j'arrive à faire comme si je l'avais vécu.
Pour finir, Laurent, en deux mots, là, on a parlé de toutes les courses qu'on pouvait faire, de tous les paysages qu'on pouvait voir. On skie l'hiver dans les Écrins ou c'est compliqué?
Alors c'est compliqué dans la mesure où les routes s'arrêtent bien avant le parc lui-même. Après, quand on veut faire de la randonnée, il y a des refuges partout. Certains sont gardés en hiver. On part avec des pots de phoque, un sac à dos, et là c'est le bonheur absolu, c'est la solitude totale. Après, si vous voulez skier dans les stations autour, là on n'est plus dans le parc des Écrins, on regarde de loin.
Voilà. Mais c'est quand même un paysage absolument génial qu'on
vous
a découvert avec vous.
Rêver.
C'était magique.
Merci
Laurent.
Merci à vous.
Extraordinaire.
Bonne météo. Il fait quel temps demain?
Ça s'arrange, sauf sur la partie centrale.
Bon, d'accord. Merci.
Merci. Enfin, une bonne nouvelle météorologique.
L'été Made in France sur RTL. Sophie Massieu, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Nous arrivons au bout de cette émission avec quand même deux petites adresses. On en a parlé tout à l'heure avec Laurent Guillaume, le gîte de l'école dans le hameau de Dormiouze. Ça, c'est absolument génial si vous avez l'occasion d'y aller. Y passer deux ou trois nuits, c'est un bonheur. 45 euros par personne avec la demi-pension. Parce que forcément, comme il n'y a pas de restaurant, à moins de 3 heures de marche. Et puis les rhododendrons, ça, c'est à Valouise. C'est un formidable coin de bout du monde où on peut manger des crozets, ces petites pâtes carrées magnifiques, accompagnées de dio, qui sont les saucisses traditionnelles, c'est du vin blanc, du fromage. C'est fin, délicieux, tout cela.
Ça n'est pas vraiment un plat d'été, mais moi, ça me tente bien quand même.
Pas vraiment, mais c'est un plat de montagne.
Demain, Jean-Sébastien, les meilleurs moments de cette semaine, de 13h30 à 15h, la dernière de l'été, puis aussi la dernière finale pour décrocher la fameuse croisière.
Et oui.
Et d'ailleurs, vous allez nous donner tout de suite le nom du ou de la dernière finaliste.
Eh ben oui, et elle s'appelle Josette Datin. Elle a habite en Meurthe-et-Moselle, Josette. Elle nous a répondu que la barre des Écrins, le sommet du massif des Écrins, avait une altitude de 4102 mètres. Et donc, Josette est là, dans son panier, une montre RTL, un guide du routard, le guide du routard de son choix pour avoir de très bonnes adresses. Elle a l'assistant de conduite Weekengo qui va lui permettre de tout savoir avant d'arriver dans les coins dangereux des routes. C'est formidable, elle va conduire en toute sécurité et on la retrouve demain pour la dernière finale pour remporter cette croisière de 7 jours sur le canal de Provence entre Avignon et Sète.